énergies renouvelables,
désertification,
santé publique,
eau potable,
environnement médiatique,
développement durable,
technologie,
écologie,
économie,
droits humains, démocratie, respect de la
politique internationale, biodiversité,
pollution, paix.
Parce que pour faire avancer les idées, il faut les brasser. Bienvenue à Délirium Environnemental, le magazine radio d'information en environnement. Une semaine toujours aussi chargée que les autres, une espèce de petit rapport de l'actualité en première heure avec les incorruptibles Hugo Lachapelle et Patrick Bonin, où est-ce qu'on vous parle entre autres du fameux plan vert du Québec qui s'en va bien loin, les dépotoirs qui font piètre figure, Rouyn-Noranda qui manque d'air, les chats transgéniques, le transport d'énergie et plein de tonnes de choses. En deuxième partie, on fait une entrevue exclusive avec M. Clifford Lincoln, ancien ministre de l'Environnement et pionnier, fervent défenseur de bien des causes environnementales au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. Et puis finalement, on se termine avec nos classiques coups de cœur, coups de masse, calendrier cette semaine. Bien, bonjour à tout le monde, ici Nicolas Mainville en remplacement de Sofiane Legendre. En compagnie, comme je l'ai dit, des incorruptibles et indestructibles, Monsieur Hugo Lachapelle et Patrick Bonin. Comment vous allez, messieurs?
Bien le bonjour.
Incorruptible, c'est le bon mot.
Et on salue bien haut notre metteur en ondes, Étienne Côté-Paluc, qui fait toujours un travail exceptionnel sur notre site web, que d'ailleurs vous pouvez consulter en tout temps au www.radiodelirium.net. Des tonnes d'informations sur ce site internet. Et en plus, la chance de vous inscrire sur notre bulletin d'envoi, bulletin cyberlettre, où est-ce que vous pouvez recevoir ça dans votre courriel à chaque semaine, plein d'informations. D'ailleurs, l'émission archivée sur cette cyberlettre. Alors, on commence déjà avec une nouvelle qui, ma foi, fait évidemment bien chaud au cœur à bien des environnementalistes. Un sondage qui nous sort cette semaine et évidemment, Délirium Environnemental ne pouvait pas passer à côté de ce sondage-là qui nous dit « Les Canadiens ont comme priorité l'environnement ». Et oui, c'est un sondage qui est sorti la semaine passée, en fait, qui nous parle que les Canadiens ont dit à 76% au Canada en entier qu'ils avaient l'environnement comme priorité. Patrick Bonin, tu nous en parles.
Ben, je vous en parle de ce sondage qui a été fait par le Centre de recherche et d'information sur le Canada. C'est quand même un gros sondage auprès de 3000 personnes à travers tout le Canada, plus de 1000 répondants au Québec. On avait 11 sujets, entre autres, parmi les différents sujets. On demandait aux gens d'identifier quel sujet était pour eux soit de grande importance, d'importance moyenne ou de faible importance. Je suis en train de perdre ma voix tellement je suis ému. Eh bien, près de 80%, même 80% des Québécois ont dit que l'environnement est un sujet de grande importance. Et ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est que c'est avant même la santé, ainsi qu'avant même l'accroissement de la collaboration fédérale-provinciale. Et on entend souvent parler de santé, de santé, de santé. Je rappelle que le budget au niveau provincial, sur 50 milliards plus ou moins, on a 20 milliards qui va à la santé, alors que l'environnement se retrouve avec un 166 millions, donc 0,35% du budget plus ou moins. On se rend compte que les Québécois ont ça à cœur, mais que le gouvernement ne suit pas. Et c'est intéressant de voir également qu'on dit, eh bien écoutez, les parlementaires, autant au niveau canadien que québécois, vous allez avoir à vous ajuster éventuellement. Malheureusement, ce qui est un peu décevant dans ce sondage, c'est qu'on parle pas d'autre chose. En fait, on pose pas des questions ou on fait pas de conclusion à savoir justement si c'est une priorité pour les Québécois, l'environnement. Est-ce que pour eux, ils voient une priorité dans, par exemple, des choses comme un bouclier antimissile où on met beaucoup d'argent, ou quelle est leur position sur un investissement de près de 8 milliards de dollars l'année prochaine, c'est les prévisions du gouvernement fédéral, 8 milliards de dollars sur la dette encore une fois. Je vous rappelle qu'au cours des 7 dernières années, le gouvernement fédéral a mis environ 60 milliards de dollars sur la dette sans consulter personne, et pendant ce temps-là, c'est de l'argent qui ne va pas en environnement. Donc, c'est plate que ce soit pas dans le sondage, et entre autres, on parlait pas de l'idée de garder la face de la reine sur la monnaie dans le sondage, et ça, je trouve ça très décevant.
Donc, un sondage qui nous encourage, mais évidemment qui laisse poser plusieurs questions, notamment sur le discours du gouvernement fédéral et provincial, à savoir, est-ce qu'ils vont finalement nous écouter quand on parle d'environnement? Écoutez Délirium Environnemental, le magazine radio d'information, et on se lance dans cette revue de presse, revue d'actualité, avec une nouvelle qui nous frappe en plein front aujourd'hui, le plan vert du Québec. Ça fait longtemps qu'on entend parler. Et puis il paraît que ben il y aura peut-être plus de plan vert et puis que ça va être quelque chose comme le plan de développement durable et que ça va être ramené au temps de 2005. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là, Patrick
Quel
Bonin?
Beau résumé. Vous vous souvenez peut-être que les libéraux provinciaux, encore une fois, je vous le rappelle, ont dit qu'ils étaient pour mettre au Québec un plan vert, donc de fabriquer un beau plan vert, de le proposer à tous. Eh bien, on l'attend toujours, ce plan vert, et M. Louis-Gilles Francaire du Devoir a sorti ce mardi 16 novembre un scoop, qu'on pourrait dire, une primeur sur l'idée que le plan vert est en train de prendre le bord. Eh bien oui, plan vert, le ministre de l'Environnement du Québec, paraît-il que sa belle réingénierie environnementale, vous vous souvenez du fameux mot réingénierie qu'on applique partout, on voulait le mettre en environnement également. Ça aurait peut-être pu donner quelque chose d'intéressant. On avait déjà, l'an passé à l'automne, il y avait des documents qui ont circulé à l'effet qu'on avait un plan. Au printemps dernier également, il y a des gens du ministère haut placés en environnement qui avaient ce document. On a rencontré des gens l'été passé, des groupes environnementaux, pour consulter sur ce fameux plan vert. Eh bien, qu'est-ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il doit y avoir de la tumulte au sein du Parti libéral, entre autres en différents ministres, nous supposons, parce que ce fameux plan vert est tout simplement encore en attente. On va peut-être avoir une consultation parlementaire en janvier sur ce plan vert-là qu'on va nous proposer, qui deviendrait bizarrement simplement des grandes orientations, un document d'orientation. Donc, très, très alarmant de savoir qu'on est presque rendu, en fait son calcul en janvier, on va presque rendu à la mi-chemin du mandat du Parti libéral. On n'aura pas encore de plan vert et on prend plein de décisions économiques, politiques, d'orientation gouvernementale. Entre autres, faites simplement penser à la centrale au gaz thermique, centrale électrique au gaz naturel à Bécancour, dite de cogénération, mais qui émet énormément de gaz à effet de serre. Ce sont tous des décisions. Pensez à la levée du moratoire sur la production porcine. Pensez également à l'exploration potentielle du gaz dans le fleuve Saint-Laurent. Ce sont tous des décisions qui sont mises en place sans avoir encore un plan vert au Québec, sans avoir de plan de Kyoto également. On n'a pas de plan de Kyoto. Donc, ça inquiète énormément les environnementalistes de voir que le gouvernement patauge, il ne fait rien.
Ben oui, on peut comprendre que c'est pratique pour le gouvernement en ce moment de laisser le plan vert sur les étagères face à tout ce qu'on vient de dire, là.
Oui, puis d'autant plus que si tu parles de tumulte au sein des gouvernements, j'imagine qu'il y a de la bisbille là, entre ressources naturelles, faune et parcs, environnement, l'eau, tous ces dossiers-là qui s'enchevauchent et qui, finalement, il y a des différents intérêts qui sont tirés sur le bord de la couverte, chacun notre bord, mais...
C'est le plus gros qui va avoir avec la couverte.
Normalement.
Mais ce qui est également, M. Harvey Mead, qui est président de l'Union québécoise pour la conservation de la nature, nous résume bien la situation un peu en disant, écoutez, on risque fortement de se retrouver avec un plan vert trop faible qui va justement être impossible de modifier les orientations économiques majeures qui sont déjà arrêtées au sein du gouvernement. Donc, beaucoup de craintes. Et juste pour vous faire prendre compte de la drôlerie qu'on peut pas avoir, la consultation qu'il y a eu cet été avec différents groupes environnementaux du Québec, des groupes nationaux dont Équiterre, Greenpeace, le regroupement national des CRE en environnement, eh bien, ces gens-là se sont retrouvés avec un document. Le ministre leur a donné un document, justement, avec les idées principales.
Du plan vert.
Du plan vert. Et à la fin de la réunion, ils ont dû remettre le plan. À quel point, justement, il n'y a pas d'ouverture là-dessus, dans le sens qu'on veut rien laisser aller. Et on l'attendait, je veux dire, ça a été annoncé, c'est en 2003 que les libéraux sont rentrés. On l'attendait, ce plan vert-là, probablement à l'automne. C'était la première ébauche que je vous parlais tantôt. Et ça traîne encore. C'est épeurant. Et ce qu'on aimerait bien savoir, en fait, on ne parle pas avant l'automne 2005 qu'on aurait notre plan vert au Québec.
Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a plusieurs dossiers qui sont sur la table. Il y a évidemment plusieurs questions environnementales qui traînent et dont plusieurs groupes font des pressions. Et notamment, la question de la gestion des déchets. Il y a un article qui est sorti ce mardi dans la presse. Charles Côté, encore une fois, qui fait du bon travail journalistique, qui nous parle des dépotoirs au Québec. Juste un petit article que je vous plug là-dessus. Apparemment, nos normes qui seraient désuètes et que les dépotoirs pollueraient. En fait, on parle qu'il y a environ 64... Ben, il y a 64 dépotoirs en action ici au Québec.
En action, ça bouge.
Ces sites d'enfouissement qui sont autorisés en exploitation. Il y en a moins de la moitié qui peuvent être qualifiés de lieux d'enfouissement technique, on les appelle les LET, donc lieux d'enfouissement technique. C'est eux qui sont soumis à un décret régissant des normes sévères au niveau de l'environnement. Donc tout ce qui est la gestion du lixivia, donc les eaux qui traversent
justement ces dépotoirs-là qui se rendent dans les soit dans les rivières ou dans les nappes phréatiques, et les biogaz qui sont produits. Vous savez que dans les dépotoirs, il y a beaucoup de fermentation, donc ces biogaz-là qui sont produits, notamment le méthane, s'infiltrent et vont se libérer.
Et, ce sont des gaz à effet de serre, d'ailleurs, le méthane.
En plus, le méthane est un puissant gaz à effet de serre. Et malheureusement, la législation en ce moment au Québec est très faible, et même la moitié des sites n'auraient pas elle serait seulement soumise à l'ancien règlement qui n'oblige même pas le traitement des eaux s'écoulant des dépotoirs et qui ne force pas le captage des gaz de décomposition des déchets. Donc évidemment, on lance la sonnette d'alarme. Ça fait longtemps en fait qu'on se questionne sur quand une vraie loi, un vrai règlement va être appliqué pour nos dépotoirs au Québec. Même que ça fait plus de 10 ans que les ministres, un après l'autre, se succèdent et s'envoient la balle en savoir comment qu'on va faire pour légiférer nos dépotoirs et s'assurer que ce soit pas un spot, un point chaud de pollution pour l'environnement. Donc, un excellent article que je suis allé chercher sur la presse.
Juste pour vous dire que je vous rappelle qu'on est en différé, donc présentement je vous parle, mais je suis hier, soit mardi, et M. Mulcair faisait une conférence de presse sur l'heure du midi. On n'a malheureusement pas pu assister à la conférence de presse, donc on ne sait pas ce qu'il a dit. Probablement qu'il a dit, comme il dit souvent, « Ah, je n'étais pas au courant et je vais sûrement faire quelque chose. »
Mais pendant ce temps-là, on autorise l'agrandissement de certains dépotoirs, et puis on n'a même pas de règlement fixe à savoir comment qu'on va légiférer ces sources de pollution ponctuelles. Alors évidemment, un gros dossier qui va falloir suivre. Hugo, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, on continue. Mais en fait, je voulais juste plugger le guide du consommateur responsable. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce guide-là. Ça fait déjà quelques années qu'il circule. Eh bien, il y a un nouveau lancement qui a été fait, une réédition en fait. C'est le guide du consommateur responsable, le pouvoir de nos choix, qui est édité par Équiterre et les éditions Protégez-vous, qui va vraiment nous lancer tout qu'est-ce qui est solution point de vue de consommation responsable évidemment, à savoir comment qu'on peut réduire notre consommation et comment qu'on peut faire des choix plus intelligents, tant pour l'environnement que les questions sociales. Donc évidemment, la question de l'agriculture biologique rentre là-dedans, le commerce équitable.
Et juste rajouter que justement c'est très complet et tellement complet, les gens l'ont tellement aimé. En fait, c'est un magazine de Protégez-vous que vous pouvez vous procurer dans n'importe quelle boutique ou magazine ou centre où on vend des revues, et ça a été édité l'an passé pour la première fois. Nicolas t'a dit depuis quelques années, ouais, je pense que tu t'emportes ou le temps passe tellement vite, je ne sais quoi, mais ça a été édité tellement et tellement apprécié des gens qui ont décidé de le rééditer encore une fois. Donc c'est vraiment intéressant, simple, efficace.
Donc c'est 170 000 nouveaux exemplaires qui vont être distribués dans 5000 points de vente au Québec, librairies, certains magasins d'aliments naturels. On parle de 5,95 $ plus taxes, donc procurez-vous-le, puisque vous savez, on est tous responsables de la qualité de notre environnement et nos choix de consommation sont évidemment tout à fait reliés à cette qualité de l'environnement.
Au pire, achetez-en un puis donnez-le à quelqu'un à Noël.
James, je me meurs. J'ai une information de la plus haute importance pour vous.
Allez-y.
Écoutez bien, les sacs de plastique ne poussent pas dans les arbres. Ils sont des produits dérivés du pétrole, ce qu'on appelle la pétrochimie. Pétrole plus chimie.
Quoi? Que dites-vous? Vous délirez.
Chaque jour, 7 millions de sacs de plastique sont utilisés par les Québécois. 7 millions chaque semaine, 36 millions. Cela équivaut à des tonnes de plastique.
Mais que voulez-vous dire, bon Dieu?
Ces sacs peuvent prendre jusqu'à 1000 ans à se biodégrader.
Et quels sont vos derniers vœux?
Ne prenez plus de sacs de plastique. Prenez un sac à dos, un sac de tissu, refusez les sacs qu'on vous offre. Oh, parlez-en aux gens qui nous entourent. 7 millions. Pétrochimique.
Vous êtes à l'écoute de Délirium environnemental. On se lance dans un sujet révolutionnaire qui, ma foi, vous savez, on est tous des agents de changement, tous des révolutionnaires en soi. On a tous un potentiel d'action, mais L'Europe est en train de signer encore une fois une longueur d'avance sur des sujets révolutionnaires comme la taxe Tobin. Hugo Lachapelle, parle-nous de cette taxe qui vient de rentrer ou peut-être va rentrer.
Eh oui, les Belges sont reconnus pour leurs frites et leurs bières, bien entendu, mais ils seront désormais, ils passeront à l'histoire avec l'adoption de la taxe Tobin. Elle a été adoptée le 1er juillet dernier, mais bon, le Sénat avait une limite jusqu'au 11 octobre pour faire des modifications à cette proposition-là. Et donc, depuis hier, la loi a été, en fait, le projet est devenu une loi. Et concrètement, c'est quoi la taxe Tobin? Bon, on se rappelle de l'ancien prix Nobel d'économie américain, James Tobin, qui nous proposait...
On s'en rappelle.
qui nous proposait un peu de lutter contre la spéculation financière internationale à travers de la taxe sur les transactions. Alors concrètement, le texte qu'on a rédigé en Belgique, il prévoit qu'une taxe de 0,01% à 0,202% sera prélevée sur toutes les transactions financières de plus de 10 000 euros, donc ça n'affectera pas nécessairement le petit consommateur, mais bien plus les industries et entreprises. Et puis ça devrait rapporter quelques 50 milliards de dollars par année au gouvernement belge. Et donc cette taxe-là pourrait servir, en fait, à l'aide au développement. Alors on nous dit, ça va introduire beaucoup plus de contrôle sur les flux financiers, donc plus de transparence dans les transactions, et le fonds pourrait prendre la forme d'un fonds d'aide au développement, mais ça sera à l'Europe de décider. Pourquoi? Parce qu'en fait, même si la Belgique c'est le premier pays à avoir proposé et accepté cette taxe-là, la loi ne peut pas entrer en vigueur avant que les autres États membres l'aient adoptée aussi. Alors on a déjà des discussions qui sont en cours en France, en Allemagne et en Italie, mais ça reste à être développé, et pour savoir qu'est-ce qui va se passer, à quoi on va octroyer ces fonds-là, ça aussi ça reste à l'Europe de le décider.
Eh bien, notre premier ministre Paul Martin, qui connaît bien ça, la fiscalité, pour lui c'est même un paradis, je dirais. Paradis fiscal. Eh bien, on s'attend pas du tout à ce qu'il adhère à cette loi. Mais on l'encourage.
Peut-être une idée qu'on pourrait lancer à tous nos 370 millions d'auditeurs, cette question de fonder un organisme mondial de l'environnement, comme il y a un organisme mondial du commerce. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Peut-être que ça pourrait être une idée qui devrait être lancée avec ces histoires de taxes Tobin. Mais bon, c'est des idées qui sont lancées.
Et peut-être juste vous donner quelques pistes, ce sera sur notre site web. Je rappelle le site radiodelirium.net. Il y a Attaque qui milite justement pour la taxe Tobin. Il y a une division d'Attaque, Attaque Québec ici au Québec. Et ils ont énormément d'informations. D'ailleurs, plusieurs conférences.
On va vous glisser le nom du site
sur notre site radiodelirium.net.
Et voilà. Écoutez, on se lance dans la question de la qualité de l'air. On a un gros bloc pollution à vous passer parce que oui, il y en a de la pollution sur cette planète et malheureusement au Québec, on n'est pas isolé. Et même qu'on a des beaux points névralgiques de pollution, comment qu'on la traite de cette pollution-là? Bon, on va parler de Noranda, en fait. Alors, Patrick, parle-nous de Murdochville puis de Rouyn-Noranda, ça va mal.
Murdochville, je vous remets dans le contexte un petit peu, ceux qui ont manqué cette nouvelle ou qui n'étaient pas au Québec la semaine passée. En Gaspésie, Murdochville, Noranda exploitait une fonderie à Murdochville en Gaspésie, et on s'est rendu compte qu'il y avait de fortes concentrations de substances cancérigènes, dont l'arsenic à Murdochville. En fait, entre 91 et 2001, je vous rappelle que c'est 345 fois plus élevé dans l'air le taux d'arsenic que les normes. Ça allait même jusqu'à 7500 fois plus élevé que la norme américaine. Ça, c'est de l'arsenic, je vous le rappelle. C'est un peu la même chose pour des taux de beryllium et de cadmium. Ils ont également fait des études de caractérisation qui ont démontré qu'il y avait 140 lots qui avaient des concentrations d'arsenic élevées. La semaine passée, on a eu une conférence de presse. Trois ministres, M. Couillard, Santé, Normando, responsable de la Gaspésie, ainsi que, c'était une dame, Mme Nathalie Normando, ainsi que Thomas Mulcair, ministre de l'Environnement, qui ont fait justement une conférence de presse pour dire qu'il y avait 15 sites qui avaient été décontaminés sur 235 qui étaient visés par un programme. Et bien, selon Le Soleil de Québec, ils nous ont menti. C'était tout faux. Imaginez une belle conférence de presse, on déplace trois ministres et ils nous disent n'importe quoi. Il paraît qu'il y aurait seulement deux terrains qui ont été décontaminés jusqu'à maintenant. Et ça vient de la bouche du propriétaire de la firme qui fait la décontamination là-bas pour Noranda. Donc, ça paraît pas super bien pour le gouvernement. Juste rappeler rapidement que Noranda, c'est 50 ans de présence quand même à Murdochville, une compagnie minière qui a fait pas mal d'argent avec ça et qui avait une perte d'emploi de 600 emplois là-bas suite suite, justement, au départ de Noranda. Eh bien, ça, c'est une chose, une requête pour un recours collectif qui a été mis en place cet été. On parle de 500 personnes qui pourraient adhérer, 2000 personnes qui pourraient adhérer de plus, des personnes qui sont déjà parties. Qui voulait venir, non pas qui voulait venir, mais qui sont partis de la région de Murdochville. Pardon, je me suis dérangé moi-même. Et ces gens-là, en fait, ce qui est aberrant là-dedans, le recours collectif, c'est qu'ils disent que le ministère de l'Environnement, ainsi que Noranda, aurait su, à partir de 1980, en fait, c'est le gouvernement du Québec qui a su, à partir de 1980, que les habitants là-bas auraient été exposés à des quantités inquiétantes de contaminants. On parle également de taux d'imprégnation de métaux lourds élevés chez les enfants, anormalement élevés chez les enfants, ça, c'est en 80. Donc, on va voir qu'est-ce qui va arriver avec ce recours-là. Noranda, ça, c'est une chose. Noranda, c'est autre chose aussi. Il y a une autre fonderie, elle, à Rouyn. Rouyn-Noranda, on sait beaucoup... on a entendu parler beaucoup de cette fonderie-là pour, entre autres, l'acide sulfurique, tout ce qui est pluies acides. Ils en rejettent encore énormément. On parle de 500 000 tonnes par année d'acide sulfurique qui est rejeté là-bas. Mais... je reviens sur l'arsenic.
Parce que... noir, c'est char.
Oui, exactement. Vous irez écouter la toune de Richard Desjardins, cette chanson, justement, avec Abitibi, je crois. Mais, ce que je voulais dire, c'est qu'en 2001, un groupe interministériel santé et environnement, c'est rare qu'on entend ça, santé et environnement, bien oui, un groupe interministériel se sont mis ensemble pour regarder les concentrations d'arsenic dans l'air à Rouyn-Noranda. Eh bien, encore une fois, tabarnouf. Ça va pas bien.
Ça va bien. Hein?
Ouais, sérieusement, une moyenne annuelle de 1000 nanogrammes par mètre cube. Juste pour vous dire, le taux normal, c'est 1 à 2 nanogrammes par mètre cube dans les villes. Il y a différentes recommandations. On parle, les recommandations, c'est de 0,2 à 0,6. Alors, en fait, il y a trois recommandations principales. 0 plus ou moins nanogrammes par mètre cube, 3 nanogrammes par mètre cube ou 50 nanogrammes. On parle de 1000 fois qu'il y avait là-bas. Ça, c'est en moyenne. Donc, le ministre de l'Environnement a dit, écoutez, ça n'a pas d'allure. Présentez-nous un plan d'ici 2 mois. Et après ça, vous allez avoir 18 mois pour diminuer, ramener ces teneurs-là d'arsenic dans l'air qui sont, je vous le rappelle, autour de 1000 nanogrammes par mètre cube. Pourquoi c'est inquiétant? Évidemment, c'est une substance cancérigène, l'arsenic. Donc, on ne sait pas ce qui va arriver avec ça. Noranda ne semble pas nécessairement contraint, dépendamment des articles que vous lirez sur notre site web. Vous allez voir, on parle d'une norme, on parle d'être contraint ou pas. Donc, on ne sait pas ce qui va arriver, mais on s'attend à ce que ça change là-bas pour ramener ça justement à la norme qui serait plus ou moins 3 nanogrammes par mètre cube. Et c'est vraiment triste de voir. Moi, je suis allé là-bas à Noranda et c'est vraiment... En fait, pourquoi ça existe? Parce que c'est du recyclage de métaux. On envoie, par exemple, des ordinateurs, on envoie du matériel électronique qu'on fait fondre, ça se retrouve dans l'air, et ça a augmenté à partir des années 90 qu'on a commencé à le faire. Donc, on est tous responsables, à quelque part, avec notre utilisation de différents métaux, de différents produits.
Donc, évidemment, toute la question qui revient, c'est est-ce que Noranda va mettre ses culottes, ou surtout, est-ce que le ministère de l'Environnement va mettre ses culottes sur ce dossier-là? Écoutez, on continue, on a plein de nouvelles sur la pollution, puis je pense que c'est extrêmement important de mentionner le cas de Stockholm et de la convention de Stockholm, Hugo Lachapelle.
Eh bien oui, la convention de Stockholm qui a été signée durant l'année passée, je crois, elle est entrée en vigueur la semaine passée et étrangement, elle n'a pas fait beaucoup de bruit dans les médias environnementaux du monde. En fait, on a très peu entendu parler, sauf un article que je vous rapporte ici de Reuters, je crois, qui nous dit en fait que la Chine, elle, fait face à un grand défi par rapport à cette convention de Stockholm. Je vous explique, je vous remets en contexte. Stockholm, c'est une convention qui visait à bannir l'usage et la production de 12 des polluants toxiques très puissants et très mortels, entre autres des pesticides, des herbicides et d'autres différents produits,
donc,
dont les BPC.
Ceux qu'on appelle les polluants organiques persistants.
Les polluants organiques persistants, c'est bien ça, les POPs pour les habitués. Alors, qu'est-ce que la Chine nous dit? Ben, sapristi, ça va nous coûter quelques 400 millions de dollars simplement pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe avec ça, où on en produit, où on a, qui en utilise et ainsi de suite. Alors, on souligne plutôt un grand manque de technologie, de fonds et de lois et une connaissance publique ou en fait un support populaire pour ce type de mesures-là. Donc, c'est un gros problème pour la Chine et vous pouvez imaginer qu'avec ses quelques milliards d'habitants, la Chine doit en produire pas mal ou plutôt utiliser pas mal de pesticides dans sa production agricole.
Il faut rappeler aussi la convention de Stockholm. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle vient de rentrer en activité. Il y a 50 pays qui ont ratifié cette convention-là. Et puis maintenant, on va être obligé de légiférer justement l'échange de ces produits-là et la production de ces 12 salopards, comme on a dit. en mentionnant les DDT, ces fameux DDT, donc les polluants organiques persistants qui restent dans la chaîne alimentaire et s'accumulent dans les niveaux alimentaires les plus élevés de la chaîne. Donc évidemment, un problème environnemental et de santé majeur. Donc, on souligne Convention de Stockholm, on félicite, ça rentre en activité.
Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, finalement, la Chine a le droit, selon la Convention de Stockholm, de prendre un autre 5 ans d'immunité, c'est-à-dire de pouvoir reporter ses objectifs aux 5 prochaines années, parce qu'elle n'est pas capable de les remplir.
Ah, la petite vilaine. Écoutez, on s'en va en musique et puis on discute de bien d'autres choses après la pause musicale.
Le bien est de plus en plus absent de ce monde. La moralité recule à chaque seconde. Mais contre vents et marées, il subsiste un bastion où il n'y a ni racisme, ni haine, ni pollution. Chez McDonald's, aucune discrimination. Les noirs comme les blancs et les jaunes y remplissent le bedon. Les gens de toute race en harmonie mastique, rassemblés autour d'un cabaret en plastique. Et depuis que le clown vêtu de rouge et de jaune a renoncé à ses contenants en styrofoam, quand tu vas manger dans un de ces restaurants, tu poses un geste profitable à l'environnement. Le clown Ronald devance toujours tes pensées. Lorsque tu es à la fois affamé et pressé, tu entres au McDo, ton cœur exulte. Ton Big Mac déjà cuit est là déjà depuis plusieurs minutes. Inspire une peur maladive. Toi qui n'as jamais été plus loin que le quart de livre. Dans une société où le chômage est roi, il n'y a que McDonald's pour t'offrir un emploi. Tu es vêtu de loc, tu es un refus. Ronald te passe la porte, tu vas en scorer des vues. Mais ce paradis pour les hommes qui ont faim est menacé et tire sans doute à sa fin. Car parmi ses employés circule une contamination, la pire qui soit, celle de la syndicalisation. Évidemment, ce ne sont pas là des emplois faciles, mais la vie est une jungle où survivre est difficile. Dans un monde où l'on veut toujours tout cuit dans la bouche, McDonald's nous apprend à mériter le salaire qu'on touche. Donc, au plan culinaire comme au plan social, le clown Ronald propose un noble idéal. Moins de syndicats, plus de McDo, plus de travail et moins d'assistés sociaux. Regarde dans les cuisines du restaurant américain, ce sont en gestation les élites de demain. Cette vision profonde au soleil des conventions collectives risque de fondre.
Je pense que vous avez pas compris, mais vous avez été élu l'employé de la semaine, mon oncle.
Ah oui, bon, ben. Moi, je n'ai pas besoin d'accréditation syndicale, moi.